Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette, FM 93.
On devrait être tout content d'être en congé, puis pourtant, il y a bien des riverains qui sont sur les nerfs, puis la fin de semaine de Pâques s'annonce pas jojo. Catherine Dorion se plaint à juste titre de la platitude des débats parlementaires, puis ensuite elle en rajoute en posant des questions insignifiantes. Les milléniaux plus riches que les X. Je vais être jalouse, Jeff.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette.
FM 93.
Luc Dionne avait raison.
Tu l'as pas vu venir?
Non, personne ne peut voir venir ça.
À ce point-là?
Ah non, personne ne peut voir venir ça. Et
En passant, les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas vu l'épisode d'hier, là, je suis le gardien des punchs.
Ah, c'est sûr que je m'échapperai pas.
En ma présence, Myriam ne s'échappera pas, je vous le garantis. Vous n'avez pas besoin de changer de poste pour les prochaines minutes, là. On ne dévoilera rien.
Non, si vous voulez le savoir, allez lire Hugo Dumas.
Oui, lui, il s'est pas barré les pieds. Par contre, il a fait quelques paragraphes puis il a dit à partir d'ici, si vous n'avez pas vu l'épisode, arrêtez de lire.
C'est ça. Je sais pas si son boss apprécie le fait qu'il dise à ses lecteurs d'arrêter de lire.
C'est honnête. Puis en même temps, le boss avec la presse plus, il peut savoir exactement combien de temps on a passé sur l'article. Pour ceux qui ont lu les deux premiers paragraphes, ça a duré 22 secondes, ben il sait que ceux-là ont pas vu l'épisode.
C'est pour ça que je ne lirai pas le commentaire de Francine qui m'a écrit et qui se pose des questions sur la fin de District 31. Parce que je peux pas répondre à sa question sans révéler des choses.
J'ai vu des images hier. J'ai vu un gif animé sur Twitter. Donc, je sais qu'il y a un personnage impliqué. Ouais. Mais je sais pas ce qui y arrive. Tous ceux qui ont vu l'épisode savent exactement c'est quoi cette séquence-là.
Écoute,
pis...
Luc Dionne, il a ce talent-là. Ça fait deux fois que les saisons achèvent. Puis que je me dis, oh shit, non. C'est pas vrai qu'il me fait ça. Il a le talent, il me choque à chaque fin de saison. Tu sais, la première saison, là, il y avait un coup de feu, puis Nadine était seule face à son ex qui la menaçait.
Donc la question, c'était, est-ce que Nadine est morte ou pas?
C'était ça. Puis, oh non, shit, il me fait pas ça. Puis là, quand il l'a ressuscité, Nadine, il l'a tué quelques épisodes plus tard.
Accident de moto?
Oui, l'accident de moto.
OK.
Qui est toujours un peu nébuleux, d'ailleurs.
Est-ce qu'on a vu le corps?
Non.
Il y a des théories hier, il y a des gens qui nous écrivaient pendant l'émission, puis après qu'on ait jasé avec Luc Dionne, il y a des gens qui disaient « Ah, moi, je pense que lui, va revenir. Lui, il est pas mort pour vrai. »
Non, quand il fait mourir, il fait mourir.
Il va pas ressusciter du monde, là, c'est pas Walking Dead.
Non. Mais la deuxième saison, ça s'est terminé, ça s'est terminé avec des bons que tu penses être bons, puis qui commettent un meurtre. Puis là, tu te dis « Oh non, il est passé du mauvais côté de la force, pas vrai. » Sur le plan cinématographique, c'est extraordinaire avec la toune un peu à la Tarantino. Là, bon,
okay.
Mais tu te dis, ah non. Puis là, hier, je me suis dit, ah non, il fait pas ça.
T'étais frustré ou t'étais étonné?
Je trouve que sa fin est cruelle.
OK.
Je trouve sa fin encore plus cruelle que s'il avait tué un de nos personnages préférés.
À ce point-là, il n'y a personne qui est mort. Et t'as trouvé ça cruel malgré tout.
Je peux pas répondre à cette question-là. Tu m'as dit de faire attention. Mais j'ai trouvé la fin cruelle. Et je me dis, oh non, il fait pas ça. Il va pas faire ça à ce personnage-là.
OK. Moi, je veux l'appréciation des auditeurs et auditrices. Mettez-moi une note sur 10. Écrivez-nous au 25226. Je veux juste voir si vous étiez satisfait de ce qui s'est passé hier.
J'étais tellement fâché, là, hier, quand l'émission a fini. Parce que ça me donne toujours cet effet-là. Je retourne l'écouter la session suivante parce que je veux savoir la suite. Là. Mais ça m'a tellement fâché que j'ai sorti un casse-tête et je l'ai quasiment fait tout dans la même veillée.
Tu t'es vengé comme ça à coup de casse-tête.
J'ai pu regarder la TV de la veillée. Je fais la grève des écrans.
OK, il y a des gens frustrés à 10 sur 10. Il y a des gens qui me disent 11 sur 10. Donc, ils ont apprécié 10 sur 10. OK, tout est sur Facebook, semble-t-il.
Oui, mais
c'est pour les gens
qui nous écoutent, je veux qu'ils puissent continuer à nous écouter en sachant qu'on divulguera rien.
Moi, je voulais tester si Dionne disait vrai hier en disant que personne n'allait voir venir ce qui s'est passé.
Personne
et les mots-clés qui reviennent sur le texto 25226, c'est inattendu. Il y a de la frustration, il y a de la surprise, il y a de la cruauté même. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Myriam.
Moi, je trouve ça très cruel comme fait. C'est un génie, nous écrit quelqu'un. Il a le don de faire le contraire de ce qu'on pensait qu'il allait se passer.
Grosse peine, très cruelle. Satisfait de la surprise? OK. Ça me donne le goût de l'écouter. Puis je me, chaque fois que vous en parlez, j'aimerais ça être dans la gang, moi aussi.
Écoute, moi, il faut que je me rattrape pour Game of Thrones. Mais j'ai 7 saisons rattrapées. C'est toi, ça. T'es chanceux. T'en as juste 3.
Ben, 3 à coup de 4 épisodes par semaine. Il y en a combien d'épisodes de District 31?
Ben,
200, 240?
Ça veut dire que t'as, grosso modo, ça veut dire que t'as 1 heure et demie par semaine à écouter.
3 saisons de quoi, 25 semaines?
Oui, parce que en plus, il n'est pas paresseux. Il fait pas comme certaines émissions qui arrêtent au début d'avril, lui. Puis il commence pas à la fin d'octobre. Il commence au mois de septembre.
C'est ça!
Tu sais, il fut un temps où la saison télévisuelle, là, elle commençait à la, au retour en classe, mm-hmm. qui à l'époque était à la fin de semaine de la fête du travail.
Oui.
On n'avait pas 20 journées pédagogiques puis des semaines de l'art.
Bon, dans mon temps, on travaillait, nous autres, c'est
non,
ça.
La télévision, là, c'était ça. La saison commençait là, puis elle se terminait le 24 juin. Moi, j'ai encore dans mes archives un format 60, où ils font un bilan de l'année, puis on est le 23 juin.
OK.
OK? Alors, c'était pas des saisons de 10 semaines, là. Mm-hmm. Puis Luc Dionne, il fait pas mal ce qui se fait de plus long comme télésérie. Il y a pas d'autres téléséries qui durent encore. Il a dépassé toutes les autres téléséries, puis il commence avant toutes les
Même les séries hebdomadaires durent moins longtemps qu'avant. 24, ça le disait, 24 épisodes. Mais maintenant, il y a souvent des séries de 10, 12 épisodes. On les consomme en rafale sur Netflix. Puis les Britanniques sont encore pires que ça. Si c'est 4 épisodes que ça prend pour raconter une histoire, ça va être 4 épisodes. Si c'en est 7, ça va être 7. Il y a pas de chiffre rond pour eux autres. C'est le temps que ça prend pour vous tenir en haleine, puis vous raconter une histoire. OK, je vais songer au rattrapage, mais il faudrait que je me cloître pendant plusieurs semaines.
Ben, regarde, ça donne bien. Il mouille demain. Il mouille après-demain. Lundi, je pense que ça s'améliore. Il faudrait que je revérifie.
C'était le cas hier, quand on regardait les prévisions. Bon. Mais c'est une journée parfaite pour glander aujourd'hui.
Ouais.
Pour rien faire. Quand je me suis envenu au travail ce matin, là, ça a pris au moins 10 minutes de moins que d'habitude. C'est pas 15, puis je pars de pas si loin. Là. J'étais à 6 km à peu près de la station. C'est tranquille sur les routes. Je me demande, dans les centres d'achat aujourd'hui, c'est aussi tranquille. C'est comme une journée gratis, celle-là. Pour ceux qui sont en congé, nous, on travaille. Il y a plein de gens qui travaillent.
Oui, mais tu sais, je me suis même pas fait arroser ce matin sur le chemin Sainte-Foy. Il y a tellement, il y a pas de trafic.
C'est décevant. T'es arrivé sèche.
Puis tu sais, mais c'est quand même une fin de semaine un peu morose. D'abord, on est sur un pied d'alerte pour tout ce qui est des inondations. Tous ceux qui habitent sur le bord d'une rivière, sur le bord d'un lac, sur le bord de quelque chose, le sol n'est pas dégelé, la neige commence à fondre, l'eau arrive en quantité. Là, c'est le festival du sac de sable. On va peut-être s'en reparler un peu plus tard. Là, mais je pense qu'il faut se mettre sérieusement à la recherche de vraies solutions.
Ouais.
Je regardais à Rigaud hier, là. Tu regardes la carte aérienne de Rigaud, puis tu t'aperçois qu'on a autorisé des quartiers résidentiels complets sur le bord de la rivière des Outaouais.
Mm-hmm.
Quand tu déboises pour faire des solages, pour faire de l'asphalte, pour faire des cours arrière gazonnés, ben t'enlèves de la capacité d'absorption au sol. Ce qui fait en sorte que la zone qui n'était pas inondable quand tu t'es installé, elle est inondable parce que tu t'es installé là. Il me semble qu'il y a quelque chose là que Geneviève Guilbeault devrait emparer, dont Geneviève Guilbeault devrait s'emparer pour trouver des solutions à long terme.
Mais c'est pas comme si on se pilait ses pieds non plus là. Dans la majorité des municipalités, il y a des terrains qu'on peut développer encore. Mais les terrains sur le bord de l'eau, hein, c'est recherché.
Le fantasme du Québécois, c'est son terrain sur le bord de l'eau. C'est le fantasme du Québécois, pouvoir mettre ta chaloupe à l'eau puis aller pêcher tranquille sans avoir à faire des descentes de bateaux. D'autant plus que les descentes de bateaux deviennent prohibitives. La plupart des riverains maintenant ont demandé à leur municipalité de facturer des fortunes aux gens. Tu sais, il y a quelque chose là dans notre gestion des rives qui est pas correct au Québec. Il y a quelque chose de pas correct.
Personnellement, je trouve que ce serait trop de troubles. Je serais pas capable de vivre ce stress-là à chaque printemps, pour en profiter les 11 autres mois de l'année.
Hein, ta réponse? S'il y a du monde dans les centres commerciaux, 25 minutes pour sortir du stationnement du Costco, bordel total.
Ouch!
Est-ce que c'est parce que Costco n'a pas augmenté son prix de l'essence?
C'est exactement ce que j'allais poser comme question. Je vais aller voir sur GasBuddy, parce que là, la hausse du prix de l'essence est généralisée. On est rendu à quoi? Une 39,9?
Une 39,9.
Partout en ville.
Ce qui est un scandale, d'ailleurs, Pierre Vézina m'a sorti des chiffres ce matin. En juin 2014, le baril de pétrole était à 106 $.
2014,
OK. On payait 1,37 $ le litre à la pompe.
Oui.
En février 2016, le baril de pétrole est tombé à 28 $. On payait 95 cents. En fait, on aurait dû payer 36 cents si ça avait été proportionnel, mais tu sais, il y a des taxes et toutes sortes de trucs, là.
C'est ça, ta règle de 3 marche plus, là. On payait trop cher si on pouvait faire le parallèle direct.
Le baril de pétrole est remonté aujourd'hui à 64 $. On paye 1,39 $, c'est-à-dire à peu près le même prix que quand le baril de pétrole valait 106 $. Ça tient pas debout. Le baril de pétrole vaut 40% de moins qu'en juin 2014 et on paye le même prix. Ça fait juste nous confirmer ce que toi, moi, n'importe quel automobiliste sait. On se fait fourrer. Mais évidemment, comme les gouvernements bénéficient de l'argent du pétrole, par toutes sortes de moyens, des taxes, etc., il n'y en a pas un qui va voler à votre rescousse. Pas un. Il n'y en a pas un qui va dire « Hey, où les moteurs? » Le dernier qui a eu une idée pour essayer au moins d'obliger les pétrolières à justifier les hausses et à les annoncer, c'était Claude Béchard. Puis il est mort.
Ouais.
Puis le PQ trouvait que c'était une bien mauvaise idée à l'époque, puis les libéraux ne l'ont pas suivi. Puis, mais personne, parmi les politiciens, ne va vous défendre parce qu'ils se sacrent de vous autres, parce qu'ils ont bien plus de fun avec votre argent que vous pourriez en avoir.
Cette semaine, Myriam, on parle du pipeline de Jason Kenney, puis il a l'air franchement déterminé à faire passer ces deux pipelines, celui qui va vers l'ouest et celui qui va vers l'est. Puis il y a des gens qui fantasment à l'idée d'accorder le droit au pipeline de passer sur le territoire québécois, mais de marchander ça contre une baisse du prix de l'essence.
Ça va être difficile de marchander ça contre une baisse du prix de l'essence, parce que celui qui peut négocier ça, c'est notre gouvernement. Notre gouvernement n'a aucun intérêt dans une baisse du prix de l'essence. Il essaye de te convaincre de prendre un char électrique. Il te paye même pour que tu prennes un char électrique. Donc, il va peut-être obtenir des redevances. Il va peut-être, à la rigueur, obtenir des redevances pour des municipalités qui sont traversées par le pipeline. Mais ne compte pas sur François Legault, ni d'ailleurs sur aucun des autres partis, de Québec solidaire en passant par le PQ, en allant au Parti libéral, puis tu peux toutes les nommer, là, du Parti nul, aller jusqu'au Parti rhinocéros, là. Il n'y a pas un, qui a intérêt à te défendre comme automobiliste.
C'est trop payant.
Parce que ils ont tout un agenda autre que le tien. Puis après ça, ils s'étonnent qu'on ait un certain désabusement à l'endroit des politiciens. Il n'y en a pas un qui va te défendre. Alors, ils vont obtenir des redevances avec lesquelles ils vont faire joujou eux-mêmes plutôt que de te les donner dans tes poches.
Ben, si les redevances peuvent alléger un peu le fardeau fiscal sur les contribuables, tu penses qu'ils vont juste prendre plus d'argent et dépenser davantage? Ils nous refileront pas une partie de ça? Je suis peut-être naïf en demandant ça, là. Mais un parti qui veut se faire élire, des baisses d'impôts, c'est un argument qui porte.
T'as-tu fait ton rapport d'impôts, toi?
Oui, je l'ai fait, Myriam.
OK. Un des problèmes, c'est qu'on le fait pas nous-mêmes. Tu l'as fait faire ou tu l'as fait?
Je l'ai fait faire.
Ouais, c'est ça. Un des problèmes, c'est qu'on le fait pas nous-mêmes. Ça fait qu'on le voit pas vraiment ce qu'on paye. Et je pense que ça fait partie du plan aussi, de nous faire passer faire un rapport d'impôts tellement compliqué qu'on passe maintenant par des intermédiaires, si bien qu'on voit pas vraiment ce qu'on leur donne.
C'est une industrie qui est payante quand même.
Ils ont bien plus de fun avec ton fric que tu pourrais en avoir.
Le gaz au Costco serait à 1,27 $ selon ce que je vois via les auditeurs qui sont en train de nous écrire. Et semble-t-il que le Costco serait fermé dimanche. Ça expliquerait un peu pourquoi les gens vont faire les provisions pour le week-end pascal. S'il y a des brunchs et des repas en fin de semaine. Ben...
Ouais, mais quand tu vas au Costco, là, tu fais des provisions pour 10 ans.
Mais le jambon, Myriam, le jambon en fin de semaine, il est moins cher chez Costco. Faut aller le chercher là.
Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on va enlever le prix plancher du pétrole. La dernière ministre à qui j'avais demandé qu'on mette, que si on mettait un prix plancher, on mette aussi un prix plafond, là, c'était Rita Dionne Marsolais, je pense, qui à l'époque était ministre de l'énergie. Et elle m'avait dit, si on met un prix plafond, les pétrolières voudront plus nous en vendre de pétrole.
C'était l'argument qu'elle t'avait servi pour vrai?
Je te jure. En matière de pétrole, je pense que j'ai pas mal entendu toutes les niaiseries qu'un politicien peut me servir au cours des petites 40 années.
As-tu réussi à garder ton calme?
Ben, j'ai ri. Tu veux que je fasse? Ça sert à rien de se choquer, là, tu ris. L'île du Prince-Édouard a un prix plafond depuis des années, puis c'est, à ma connaissance, ils sont encore capables de faire rouler leur tracteur. Hey, on parlait de District 31. Il y a quelqu'un qui m'a écrit District 21. C'est peut-être parce qu'il y a mêle avec le suspense qui a lieu à Québec 21.
Ben, Québec 21, 21 Pilots. Il y a le Blackjack 21. C'est partout, Myriam.
Nancy Pius, qui était la coulissière de Jean-François Gosselin, a finalement ouvert son cœur sur Facebook dans une longue lettre dans laquelle... elle pérore beaucoup, mais elle finit par dire l'essentiel. Ouais. Non?
Quand tu commences ta lettre par « Les gens de Québec méritent l'excellence », puis que tu le répètes plus loin dans la lettre, le message est assez clair à l'endroit de M. Gosselin.
Juste avant, permettez-moi ces quelques mots. Je me souviendrai longtemps, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Au jour J, une majorité, ta-ta-ta-ta-ta-ta. OK. À ce moment, je n'aurais pas imaginé que mon aventure aurait connu une fin aussi abrupte, écrit-elle. Que s'est-il passé au sein de notre formation politique? Là, on est rendu à peu près au milieu. Une confiance envers le chef qui s'est dégradée au fil du temps. Je dois vous parler franchement. Au fil du temps, nous recevions des commentaires et des opinions en provenance des membres du parti comme de l'extérieur, remettant en question la capacité du chef de Québec 21 à devenir un maire crédible, visionnaire et apprécié par les citoyens de la ville de Québec. Nous avons lucidement pris acte et fait de ces constats à M. Gosselin afin qu'avec notre aide, il puisse saisir la balle au bon, en faire une opportunité d'amélioration et raviver la confiance qui lui échappait. Avec le recul, c'était naïf de notre part ou était-il trop tard? Quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas passées ainsi et malheureusement, c'est un climat de tension et de suspicion qui en a découlé. Le coup de grâce fut la sortie publique de M. Gosselin demandant une enquête sur des dépenses qu'il disait juger douteuses au sein de sa propre organisation. Autrement dit, quand ils sont aperçus que Jean-François Gosselin avait pas l'air de se dessiner comme un chef transcendant, capable de battre la baume aux prochaines élections, puis qu'ils lui ont dit, il a pris la mouche, il s'est choqué, il a dit « mêlez-vous de vos affaires, vous les organisateurs, c'est moi le leader », puis il les a tassés.
Oui, il les a tirés en dessous l'autobus avec un prétexte de dépenses que lui avait qualifié de douteuses.
Ça te fait-tu penser un peu à... Jonathan l'a échappé, celle-là? Coudonc, les chefs de partis municipaux, ils ont-tu toute cette manie-là de prendre leurs alliés puis de les tirer en bas de l'autobus? En tout cas, dans le cas du maire Labeaume, ce qui est clair maintenant avec Québec 21, c'est qu'il a intérêt à se méfier pas mal plus de ses proches que de ses ennemis. Parce que Rémi Normand a pas mal plus nuit, à mon avis, à l'équipe Labeaume cette semaine que Québec 21 ne lui aura nuit.
J'aurais aimé être dans la pièce quand M. Labeaume a regardé l'allocution de M. Normand. S'il y avait un signal télé là, ou une vidéo de ça, s'il était un peu dubitatif devant l'attitude de son... pas de son, on peut-tu dire dauphin dans le cas de Rémi Normand? Non, pas forcément.
Ben, je pense que Rémi Normand, en faisant une sortie aussi spectaculaire et en utilisant des termes aussi brutaux, tu sais, farfelus, etc., là, le message qu'il a passé à l'équipe de Labeaume, c'est moi maintenant le porte-voix, c'est moi celui qui a du guts ici.
Pendant que le boss est en convalescence, c'est moi qui m'aime.
Sauf que je suis pas sûr qu'il a joué en faveur de son équipe en faisant ça. Il est 11h19 minutes, on fait une petite pause, puis ensuite, dépendance aux écrans. Il paraît qu'il faut vraiment convaincre les jeunes de s'en détacher. Moi, j'ai de la misère un peu.
Toi-même?
Ah ben,
on est deux.
On fait tout
sur nos écrans. On est nombreux, je pense.
On fait tout sur nos écrans.